Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue à cette deuxième rencontre d'écrivains du CRILC. Le CRILC qui est le Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoise. Cette année, nos rencontres sont placées sous le thème du roman noir et du roman policier québécois. Et à cette occasion, nous avons le plaisir de recevoir Patrick Roy, qui va venir nous parler de son roman, son tout dernier roman, « L'homme qui a vu l'ours ». Patrick Roy, bonjour.
Allô.
L'homme qui a vu l'ours, c'est ton deuxième roman qui a été publié au Cartanier en 2015. Le tout premier, c'était La balade de Nicholas Jones, qui est paru en 2010. Tu as aussi fait paraître une novella, Les singes de Gandhi, en 2013. Et plus récemment, tu as aussi fait paraître tes tout premiers poèmes, une suite qui est intitulée C'est une mauvaise saison, dans la revue Estuaire, le numéro 163, pour ceux qui veulent se le procurer. Accessoirement, tu travailles aussi comme chef d'équipe et réviseur d'un cabinet de traduction. Et auparavant, tu as fait tes études à l'Université Laval, donc tu as complété une maîtrise sur Alain Bachung et une thèse de doctorat sur Michel Houellebecq. Nous allons aujourd'hui nous entretenir de ton dernier roman, L'homme qui a vu l'ours. Je vous fais un petit résumé en essayant de ne voler aucun punch. Vous allez avoir beaucoup de plaisir à le lire quand même, juste pour qu'on sache tous où on se situe. Le personnage principal de ton roman, c'est Guillaume Fitzpatrick, qui est un journaliste sportif de Sherbrooke, à qui l'un des plus gros éditeurs américains, la Random House, va faire appel pour écrire la biographie officielle d'un célèbre lutteur des années 90, Tommy Madsen. Je ne sais pas si je le prononce comme il faut. Tommy Madsen est une sorte de géant blond du type viking qui est originaire du Vermont et dont la carrière est sur la voie de garage depuis qu'il a rendu paraplégique un de ses adversaires dans un combat épique au Centre Bell. Pour l'assister dans ses recherches autour de cette biographie, Fitzpatrick va s'assurer des services d'Hugo Turcotte, qui est un journaliste sportif au Soleil, qui était aussi un de ses collègues, qui couvre le sport amateur régional, qui fait du zèle sur à peu près toutes les missions qu'on lui confie, et surtout qui est un très très grand connaisseur de lutte professionnelle. Turcotte va d'ailleurs voir dans ce contrat de recherche l'occasion inespérée de prouver sa valeur comme journaliste, et il va le faire en fouillant dans le passé de Tommy Madsen. Ce qu'il va déterrer, en fait, ce sont les agissements pas très nets, non pas du personnage Tommy, mais de son père, Ézéchiel, qui est à la tête d'une sorte de petite mafia agricole de la Nouvelle-Angleterre. Turcotte et Fitzpatrick vont se retrouver pris dans leur enquête, une enquête qui va amener une déferlante de violence que ni le personnage, ni les lecteurs d'ailleurs, ne voient venir. Première question, je me lance dans le vif du sujet. Tu campes ton roman dans le monde de la lutte professionnelle. Parle-nous d'abord de ce qui t'a intéressé dans ce sujet-là et qu'est-ce qui t'a amené à en faire, je dirais pas le sujet, mais l'un des sujets de ton livre.
En fait, comme plusieurs petits gars de ma génération, petites filles aussi même sûrement, j'écoutais beaucoup la lutte quand j'étais jeune. Puis là, en vieillissant, je me suis rendu compte que tous ces lutteurs-là que j'avais aimés devenaient soit des infirmes, soit devenaient des morts, mouraient. Puis c'est ça, était tout, c'est dans des situations un peu invraisemblables, en fin de vie à 40 ans, puis tout ça. Puis ça me fascinait un peu, mais pas plus que ça. Puis un jour, dans une soirée un peu arrosée avec mon éditeur, Éric de la Rochelière, je me suis mis à raconter une anecdote de lutte que j'avais. C'est un peu ça qui a donné naissance au roman, parce qu'Éric me dit après, il faut absolument que tu fasses quelque chose avec cette histoire-là. Puis l'anecdote, en fait, c'est que quand j'avais 8 ou 9 ans, c'est plus très clair, il y avait les super étoiles de la lutte le dimanche. Puis aux super étoiles de la lutte, c'est les débuts de ma carrière d'écrivain. Finalement, il y avait le courrier du lecteur. Puis Brutus de Barber Beefcake, certains se rappellent peut-être de lui, un homme en collant rose menaçant qui coupait les cheveux de ses adversaires après les victoires, avait été victime de ce que je jugeais dans ma tête d'enfant de 8 ans être une injustice absolument incroyable. J'avais écrit une lettre enflammée au courrier du lecteur. Je suis en train de manger mes céréales le dimanche matin, 2-3 semaines plus tard. Le commentateur, Guy Auré, pige la lettre de la semaine, puis se met à la lire, je me rends compte que c'est ma lettre. Là, je suis en train de... Puis là, il y a mon père qui est à côté de moi, puis il comprend pas trop, il finit par réaliser que oui, c'est ma lettre. Puis là, on annonce que je gagne des billets VIP pour un gala de lutte au forum à l'époque. J'arrive au forum, j'avais été là avec le frère de ma gardienne qui est un fan fini de lutte. On avait été là, on m'avait dit tu passes par l'entrée des VIP, je suis accueilli par... par Édouard Carpentier. Édouard Carpentier lui-même et Guy Auré. Puis là, on m'amène rencontrer les Rougeaux. C'est impressionnant, sauf que tu sais, je suis jeune. Fait que je suis un peu déçu. Mes deux idoles, c'est le guerrier ultime et Brutus Beefcake. Puis là, je parle aux Rougeaux, tu sais, je fais semblant qu'ils m'intéressent un peu, mais je suis quand même déçu. Et les Rougeaux, ben, ils m'expliquent, là, Brutus est trop concentré, il y a un gros combat, le guerrier ultime aussi, bon, on va te reconduire à ton banc, tu sais. Je me reviens et là, j'entends dans le couloir, « Hey, kid! » Et c'est Brutus, huilé et tout ça, qui me salue, qui vient me parler et tout ça. Le gala commence, puis là, le gala, puis ça, c'est l'anecdote, j'en arrive à l'anecdote, c'est une petite mise en contexte. Il y a un combat, la finale oppose Kamala, le géant ougandais. Pour ceux qui connaissent pas Kamala, c'était un faux roi africain, tu sais, avec tout le cliché que ça peut impliquer, lune sur le ventre, os dans le nez, qui était célèbre pour avoir...
Le petit pagne,
évidemment. Célèbre pour avoir apparemment mangé un poulet vivant à la télévision. Et il commence son combat de championnat contre le guerrier ultime. Le guerrier ultime, le combat se déroule, tout ça, le guerrier ultime, un peu le dessus, envoie valser Kamala par-dessus les câbles. Et là, Kamala, moi, je suis en première rangée, s'approche, mais vraiment à un centimètre de ma face. Il me fait son truc qu'il faisait toujours, se met à me souffler dans le nez. Mais tu sais, il est là, puis... Puis c'est comme... Puis moi, j'ai peur, là. Je suis en train de chier dans mes culottes. Mon père essaie de m'expliquer que c'est pas dangereux, mais moi, je dis la seule chose que je suis capable de dire. Je suis paniqué. Je regarde Kamala, puis je dis, « You're a nigger. You're a big fucking nigger. » Mais là, c'est peut-être que, avec le recul, je surinterprète, mais il me semblait avoir vu dans sa face, même si j'étais jeune, qu'il était pas content. Puis là, évidemment, ça s'est poursuivi. Puis voilà, le guerrier ultime est arrivé... pète une table dans le dos de Kamala, a gagné, est venu me lever la main. C'est un moment absolument hallucinant.
Puis, oui, clairement.
Eric me disait, faut que tu fasses quelque chose avec ça. Ben là, faut faire quelque chose avec ça, tu sais. Ça l'a donné par dérivation le personnage de Jérôme Uniatis dans le roman, oui. Qui est comme une espèce d'hommage à Kamala, qui est lui-même un lutteur pris dans sa peau de sorcier noir et tout ça. Ben, c'est ça. Puis je pensais à ce qu'Éric m'avait dit dans nos discussions. Je pensais à ce que j'ai dit aussi, le sort de tous ces lutteurs-là. Mm-hmm. J'avais vu aussi le film The Wrestler avec Mickey Rourke.
Mm-hmm. Que tu cites d'ailleurs dans ton roman.
Que je cite. Ouais. C'était un peu un choix volontaire. J'avais essayé de jouer avec ça. Je me suis dit, le parallèle est inévitable. Mm-hmm. Puis aussi bien le désamorcer. Tu sais.
Oui, c'est vrai.
Puis... c'est ça. Puis il y avait tout ça. J'ai lu la biographie de Mankind. Tout ça me fascinait un peu. Toutes ces étoiles-là qui déclinaient.
T'en as fait ton fil, en fait. T'en as fait un fil conducteur, mais c'est absolument pas le seul du roman. Non. En fait, c'est un roman où on choisit la lutte, ça finit par ouvrir sur une autre porte. Mais justement, à ce propos, on le voit, la lutte, tu nous en as parlé, ton anecdote, c'est un univers qui est très particulier, qui est, disons-le, souvent évoqué sur le mode de la dérision, qui est pas considéré comme un sport, mais plutôt comme une sorte de spectacle grotesque, de cirque. D'ailleurs, on en dit presque toujours la même chose, c'est-à-dire que la lutte est au sport ce que le vaudeville est au théâtre. Je ne l'ai pas inventé, il y a deux de tes critiques de ton roman qui littéralement utilisent cette phrase-là. Mais tu n'as pas choisi d'entrer dans cet univers-là par cette porte qui était pourtant toute grande ouverte. Là. Ça aurait été extrêmement facile de parler de paillettes, puis de duel Mazola, puis de bobettes, stretch, puis tout ça. Mais au contraire, tu en as fait ressortir les aspects les plus humains ou parfois même les plus tragiques. J'ai relevé quelques exemples. En fait, tu évoques des drames réels qui ont marqué le monde de la lutte professionnelle. Entre autres, la mort d'Owen Hart dans le ring, qui s'est accidentellement tué lors d'une cascade, en fait, d'une entrée en scène qui a mal tourné. Ou encore Chris Benoit, qui est un lutteur assez connu canadien d'ailleurs. qui a eu une très belle carrière dans la WWE, qui, dans une sorte de crise de démence, en fait, qu'on a attribuée à l'abus de stéroïdes, aux commotions cérébrales répétées, dans une crise de démence, il a assassiné sa femme et son fils et s'est suicidé en 2007, ce qui avait créé aussi une commotion dans le monde de la lutte. Tu vas évoquer ces moments où un lutteur devient prisonnier d'un personnage qu'il a pas choisi ou qu'il n'aime pas lui-même mais qu'on lui impose, ou encore celui qui est peut-être plus particulier parce que ton personnage principal tombe là-dedans, c'est celui où les lutteurs sortent du script par colère ou par vanité. Pourquoi est-ce que tu as choisi d'aborder cet univers-là par ce type de versant?
La meilleure réponse que je peux donner, c'est que c'est probablement le versant le plus romanesque. Parce que tu sais, c'est vrai que oui, en surface, c'est un monde très caricatural qui est un peu voulu comme ça aussi, là, malgré ses complexités et les changements d'allégeance. Ça reste un monde quand même assez simple. Tu sais, c'est Bart dans les mythologies, dans son bel article sur la lutte, c'est bon, il dit que le monde devient intelligible. T'sais, on a le bien, le mal, puis il parle de la fonction catharsique de la lutte. C'est vrai. Mais tu sais, à partir de là, qu'est-ce que tu fais comme romancier? Tu peux pas juste décrire ce spectacle-là. T'sais, ça tourne rapidement à vide. Si tu t'en tiens à ça. Moi, une phrase que j'aime beaucoup, c'est la phrase de Gogol. Je sais plus c'est où dans Gogol. Kundera le cite à un moment donné. Je pense que c'est dans l'art du roman. Puis c'est plus longuement et attentivement, on regarde une histoire drôle, puis elle devient triste. Puis je pense que c'est ça qui arrive avec la lutte, c'est que plus je creusais cette matière-là, plus je trouvais ça infiniment triste. Tu sais, parce que, premièrement, le chemin, tu sais, il y a beaucoup d'appelés, je pense qu'il y a un peu ça dans le roman, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Mm. Tu sais, tous les types qui en veulent à Madison, au gymnase, c'est Tucker, Higgins, Bilodeau, c'est des gens qui avaient le potentiel, qui n'ont pas monté, qui sont restés... Qui sont restés au bas de l'échelle. Puis à un moment donné, quand j'étais dans ma phase, ok, je suis peut-être en train de faire un roman sur la lutte pour vrai. J'étais allé voir, je me suis dit, je peux pas juste m'en tenir non plus, tu sais, à la grande lutte. J'étais allé voir un gala au camping de Saint-Apollinaire.
très instructif.
Tu sais, puis bon, c'est un peu la même chose, mais à plus petite échelle. Mais ce qui me fascinait, c'était la violence de la foule. Puis ces lutteurs-là, j'en ai vu un qui carrément a presque pogné les nerfs, l'autre lutteur l'a un peu retenu parce qu'il y avait une femme qui arrêtait pas de l'insulter. T'sais, t'es une petite graine, t'es pas capable de faire jouer d'une femme, t'es un salaud, puis elle pitchait de la bière, la femme se faisait avertir, puis il était une gang de femmes, là. Puis c'était d'une violence, puis il y avait des gars aussi totalement ridicules dans la foule, puis tu sais, les gars se battaient, puis là, t'as comme l'annonceur qui dit, les gens qui jouent aux machines à sous, merci d'écouter un peu le gala, parle pas trop fort, puis là, t'es là, ces gars-là, c'est leur vie. Ils se battent pour grimper. Puis, incidemment, un lutteur, Kevin Owens, qui est le champion maintenant, était là à Saint-Apollinaire. Effectivement, monté l'échelle.
Ouais, il a monté.
Mais tous les autres que j'ai vus ce soir-là, je ne sais pas ce que devient Ismaël, l'évadé d'asile et compagnie. C'est des gens qui en restent là, qui continuent de se battre pour la plupart dans des salles paroissiales. Puis, c'est fascinant. Je lisais l'autobiographie de Mankind. Mankind, au début de sa carrière, hein, se tapait des 8 heures de route pour aller lutter à telle place. Il n'y avait pas d'argent pour se payer une chambre d'hôtel. Il dormait genre dans son char. S'il mangeait un burger dans sa journée, c'était beau. Tu sais, c'est comme des sacrifices permanents. Puis souvent, c'est...
Ça donne peu de choses.
Puis l'autre versant, mais c'est le versant qu'on voit aussi dans le roman, c'est les lutteurs un peu finis, en bout de piste... Je raconte l'anecdote, qui est une anecdote vraie, là, des British Bulldogs, qui étaient des célèbres lutteurs, très athlétiques, puis tout ça, dans les années 80, ça a été des champions, puis tout ça. Il y en a un qui est mort, l'autre est rendu en chaise roulante, c'est ça, pour abus de drogue et des histoires invraisemblables. Donc, je trouvais que ce versant-là était le plus intéressant, parce que c'est le versant qui fait apparaître un peu les complexités de cet univers-là. Puis, ben, tu l'as dit, le caractère humain aussi. C'est là que la matière est la plus vive, je pense.
Ben, c'est là où la matière au roman noir, en tout cas. C'est un terreau qui est extrêmement fertile pour ça. D'ailleurs, la plupart de tes critiques parlent de ton roman comme de roman noir. La quatrième de couverture, en fait, c'est plutôt la troisième, mais bon, c'est à l'intérieur. Si vous la lisez, présente, je vais le citer, ton livre comme une histoire qui met en scène les coulisses d'un monde noir et extravagant. Et en effet, on retrouve dans ton livre quelques-uns des très grands thèmes du roman noir américain, je dirais, à la fois celui des années 20 à la d'Achille Hamet, où on a la corruption policière, la collusion entre le pouvoir politique et la pègre, mais on retrouve aussi qu'ils sont, disons, très finement entremêlés là-dedans, des thèmes du roman noir contemporain qui sont exploités notamment par des auteurs comme James Lieber, comme Herbert Lieberman, comme Dennis Lehane, que tu cites aussi dans ton roman. Des auteurs qui vont puiser davantage, je dirais, à un William Faulkner plutôt qu'au Pulp Magazine ou à la Hardboard Literature qu'a fait d'Achille Hamet, et qui vont mettre en scène ce que j'avais appelé, je t'avais soumis le mot, en fait, la noirceur ordinaire du monde, avec sa violence du quotidien, avec ses ratés, avec ses lâchetés, avec sa solitude aussi, ses défaites, quand on voit justement tes personnages de lutteurs qui ont jamais monté, ses défaites sur défaites sur défaites à chaque fois, l'absence complète de rédemption. Puis, les petites gens, c'est ce qui m'a beaucoup marqué. Autant qu'ils viennent de la campagne ou de la ville, c'est un thème qui est très présent dans le roman noir contemporain. Dans tout ce que je viens de dire, où est-ce que tu te situes dans ça? Est-ce que c'était des thèmes ou des codes qui te parlaient davantage que d'autres?
Ouais, ben c'est une bonne question. Quand tu me l'as posé au début, quand on s'écrivait pour préparer notre entretien, j'étais un peu... Mais je pense que c'est un peu à cheval entre les deux. Parce que ce côté-là, tu sais, en surface... Au départ, en fait, ça s'annonce, ça aurait pu vite devenir très caricatural, mais quand même, le monde des lutteurs, on comprend vite qu'il y a un type, que ça va être une espèce de chef d'une petite pègre agricole, puis à côté, tu sais, la corruption, le crime, toute cette vieille école-là, en quelque sorte. Mais aussitôt que Hugo Turcotte va se mettre à tourner la manivelle, si on veut, c'est là qu'on embarque dans ce que tu viens de dire, tu sais, la souffrance des gens ordinaires. Tu sais, une phrase de Houellebecq, j'ai fait ma thèse sur Houellebecq, fait que j'en garde des séquelles permanentes. Houellebecq dit « Je suis l'écrivain de la souffrance ordinaire ». Je n'ai pas la prétention de Houellebecq, là. Je ne suis pas l'écrivain de la souffrance ordinaire, mais c'est des thèmes qui me fascinent. T'sais, mais les personnages que j'aime le plus là-dedans, c'est probablement Turcotte. C'est Turcotte qui fait pitié, dans le fond.
C'est un loser,
puis avec sa dague qui traîne, puis tous ces personnages-là qui apparaissent aussi, c'est vrai ce que tu dis, Junior Flanagan dans le dépanneur, qui est un peu une victime de ce pègre-là, qui est dépressif, c'est tout cet univers-là qui se révèle. Je pense que ça s'en va de plus en plus vers ça qu'on avance dans le roman. Puis en même temps, on est avec les gars du gymnase de plus en plus vers la fin quand on rentre dans l'espèce de huis clos, si on veut, ou enfin de tuerie finale. Mm. Je m'excuse si j'ai vendu un punch. ça va virer mal. Mais les frustrations de ces gars-là aussi, puis on découvre que même pas un clan, eux-mêmes s'en veulent l'un l'autre, puis comme cet univers-là de rumination, puis c'est un monde qui est en rien d'exploser toujours, parce que tout le monde en vit l'autre, puis... Fait que je dirais que, ouais, c'est ça, je pense que c'est un peu à cheval entre les deux, probablement plus près du roman noir qu'on dit contemporain, mais c'est sûr que ce genre d'univers-là, les réprouvés, les parias, c'est un univers qui me parle, mais toujours assez parlé, puis ça transparaît là-dedans.
Je me demande de faire un crochet sur ton Houellebecq, en fait. Est-ce que ça a laissé une empreinte sur ton écriture, cette proximité-là avec un auteur que tu as, j'imagine, étudié pendant un bon moment?
Oui, sûrement. Mais je pense que ça l'a probablement surtout laissé... je l'avais probablement déjà, ce qui explique que je suis allé vers Houellebecq aussi, là, mais... Houellebecq explore l'homme ordinaire, cette espèce de misère-là, de l'homme système, de l'extension du domaine de la lutte, Bruno dans les particules élémentaires, qui est l'enseignant pitoyable qui va dans un camping en calculant le nombre de femmes par rapport au nombre de gars. T'sais, tout ça, ces personnages-là, j'ai trouvé fascinant. T'sais. Puis bon, peut-être pas dans l'écriture, quoique des fois, ben, j'entrerai pas là-dedans. Là. J'essaie de me débarrasser. Au début, j'ai gardé des tics de Houellebecq. Comme le « en fait ». Mais c'est sûr que c'est peut-être une certaine vision du monde de Houellebecq. Mm-hmm. Mon écriture, je sais pas. Je sais pas. J'ai peut-être pas assez de recul pour le dire.
je continue en fait sur le fil du roman noir. Le titre de notre entretien mentionne les frères Cohen. C'est une phrase que j'ai absolument pas inventée moi-même. En fait, je l'ai prise de ton roman. Puis tu m'avais dit que tu trouvais qu'elle campait bien l'univers dans lequel se déroulait ton livre ou son atmosphère. Comment est-ce que le cinéma des frères Coen, que l'on dit d'ailleurs volontiers noir, sans trop s'apesantir sur le pourquoi on les dit noirs, mais à chaque fois qu'on en parle, on dit toujours que c'est des cinéastes qui travaillent beaucoup la noirceur. Donc, comment les frères Coen ou le cinéma en général a été une source d'influence pour ton écriture?
Le film qui est probablement le plus marqué ou inspiré, c'est un de mes films fétiches, c'est Fargo. Puis tu sais, je trouve que j'y repensais à Fargo, puis il y a plusieurs choses, tu sais, le froid de Fargo, là, tu sais, c'est l'hiver, fait froid, tu sais, puis le roman s'ouvre, ben pas s'ouvre, mais première rencontre entre Fitzpatrick et Tommy Madison. S'il fait froid, puis t'as Madison en train de boucher du bois, puis tu sais, il y a tout ce climat-là très froid, il y a les Fargo, ça se passe au Minnesota, je pense, mais ce sont dans le Vermont, mais toute cette américanité-là, tu sais, très...
Le côté très montagneux
très,
aussi,
très montagneux, ouais, aussi. Puis tu sais, l'histoire aussi, elle fonctionne un peu de la même manière, tu sais, ce film-là en particulier, des frères Coen. Tu sais, au début, c'est quoi l'histoire? C'est un type qui manque d'argent, qui va faire faillite, ça va mal, il fait kidnapper sa femme, ça aurait pu marcher. Mais finalement, ça se met à tourner, à partir en vrille. Tu sais, c'est un peu ça aussi. Là. Si t'as pas de surcote, l'espèce... Il va écrire une biographie convenue sur Tommy Madison. Tout va probablement bien se passer. On va avoir des tensions, mais c'est pas ça qui arrive. Il y a quelque chose. Puis là, c'est que t'es dans un engrenage sans fin. Là, au début, le petit projet facile du gars dans les Coen, ben, ça finit avec quelqu'un qu'on passe dans un moulin à bois.
Mais... Je trouvais d'ailleurs que la manière, c'est pas que je disais au début que la lutte est une des portes par lesquelles on rentre dans ton roman. Mmh. Et il me semble que les fenêtres, ça m'a fait beaucoup penser à Fargo, c'est que du moment même où on a ce Turcotte qui décide de partir, de chercher son squelette parce qu'il veut prouver qu'il est un vrai journaliste, tout change et de la lutte, il n'est plus tant question que ça, ce qui m'a beaucoup fait penser au type de film que font les frères Coen. On ouvre une porte, on tombe dans une autre, on en ouvre une autre. C'est très, je dirais, presque fortuit. Et t'as ces personnages qui se font balloter tout au long du roman. Je sais pas si c'est une bonne interprétation.
Ouais, non, mais c'est intéressant. Je l'avais, j'avais pas vu comme ça. Mais c'est vrai que la lutte devient de plus en plus secondaire. T'sais. Puis même quand elle est là vers la fin, elle est là de façon... pas artificielle, mais tu sais, une des scènes importantes à la fin, c'est tout le gala d'intronisation
au Hall of Fame,
qui finalement sert de prétexte à autre chose. Mm-hmm. C'est toutes les tensions qui vont se jouer là, puis tout ça. Fait que c'est totalement tassé par toute l'intrigue de notre pègre agricole.
Mm-hmm.
Donc, c'est vrai, il y a un moment où ça twist, ça change de cap.
Est-ce que tu considères, parce qu'en fait, on voit que dans ton roman, il y a différentes teintes de noir. Tout n'est pas noir facile du début à la fin. Tout n'est pas tragique. Tout est peut-être humain, mais tout n'est pas tragique. Est-ce que dans l'écriture, tu considères qu'il y a différentes teintes de noir? Qu'il y aurait un noir littéraire, cinématographique, musical, avec lesquels un écrivain peut jouer, ou tout puise à la même source, en fait, et il suffit d'en tirer les ficelles?
Je penserais probablement plus comme ça. C'est qu'en fait, c'est qu'au-delà des genres, tu sais, on parlait de l'inspiration des Coen, tu sais, mes inspirations viennent aussi, ben, évidemment, de la littérature, tu sais, en écrivant ça, j'ai lu Jim Thompson, j'ai lu Dennis Johnson, j'ai lu évidemment McCarthy, que je lis un peu tout le temps, puis des auteurs qui m'ont accompagné beaucoup, mais tu sais, il y a aussi musique, j'écoute beaucoup, c'est une question d'ambiance et d'atmosphère. T'sais, j'ai beaucoup, entre autres, écouté Nick Cave. Parce que ces grandes chansons-là de Kearney, puis tout ça, de Red Right Hand, ben, ça crée des ambiances très noires. À partir de là, oui, il y a des intensités, il y a des nuances. On parlait de Fargo. C'est absolument horrible, la scène du wood chipper. En même temps, c'est très drôle. Parce que ça a un côté très drôle, c'est que c'est tellement... Fait qu'il y a ça aussi, puis ça dépend comment tu joues. Puis c'est toujours... dans l'univers de la lutte, c'était particulièrement... dans les scènes de lutte, c'était très difficile, entre autres, ça. Parce que, tu sais, t'as la scène où le personnage devient paraplégique.
Mais ça, je pense qu'il faut le dire, c'est qu'il détaille des combats. de manière, surtout dans le début du roman, de manière extrêmement précise, et ça file sur plusieurs pages. Et pour ceux qui ont déjà été fans de lutte, on peut vraiment les voir physiquement, c'est extrêmement visuel. Ça n'a rien de simple, ça n'a rien de caricatural non plus.
Non, puis c'est très dur parce que, tu sais, entre autres, cette scène-là, le combat au centre, mm-hmm. au centre Bell contre Blaise Carlton, c'est que là, tu le sens, il faut que tu sentes qu'il y a une montée. Ça va devenir abject, là, ce qui mm-hmm. est en train de se passer sous nos yeux. En même temps, ça reste un combat de lutte. Il faut pas que l'écriture se mette à, comment je pourrais dire, à s'imprégner. Là, il se passe quelque chose de grand, de tragique. Il faut que ça reste une description mm-hmm. qui est un peu drôle aussi par moment quand t'as le gérant de Madison qui essaie de le calmer puis qui est gros puis un peu dégâti puis en même temps c'est tragique là, son poulain est en train de presque tuer quelqu'un, fait qu'il y a tout ça, faut que tu joues avec ces intensités là. C'est sûrement des meilleurs défis aussi, des plus grands défis, c'était de doser tout ça. Mm-hmm. Tu sais, faut justement, tu peux tirer les ficelles, faut que tu saches comment doser.
Ton personnage principal, Guillaume Fitzpatrick, pardon, est un journaliste sportif. Son acolyte, Hugo Turcotte, c'est aussi un journaliste sportif. Nous sommes à milieu du personnage traditionnel du roman noir ou du roman policier, qui est du détective ou du policier, quel qu'il soit. Pourtant, l'un et l'autre vont mener une quête qui est différente, mais qui finit par se ressembler, et ils deviennent mêlés à une enquête, je dirais, presque contre leur gré, en fait. C'est clair que Fitzpatrick refuse au début d'embarquer dans les délires de Turcotte, et contre leur gré, ils finissent par être complètement firewappés dans tout ça. À la fin du roman, la porte se referme, et il n'y a pas de solution. Les bons ne sont pas récompensés, les méchants ne sont pas punis, et chose encore plus troublante, on ne sait rien plus sur les magouilles, en fait, que nos deux personnages ont exhumé. Et on a presque l'impression, en fait, que ton histoire a ouvert une fenêtre pour nous donner un aperçu de comment le cours des choses peut être violemment altéré, mais sans conclure. Pourquoi as-tu choisi une telle manière de présenter les choses?
C'est une excellente question. D'ailleurs, la première question que j'ai eue à propos de mon roman, c'est mon beau-père qui le dévorait assez vite. Puis là, il me dit, la suite apparaît quand? Ça fait des années que je travaille là-dessus. Il n'y a pas de suite, là. Il n'y a pas de suite de prévu, tu sais. Sauf que lui, il s'attendait vraiment à ce qu'il y ait une suite. Puis il y a d'autres personnes aussi, tu sais, qui ont eu cette réaction-là. Puis, à vrai dire, il y a eu plusieurs... j'ai réfléchi beaucoup à ça. Il y a eu plusieurs fins.
Okay.
Un jour, je publierai peut-être le livre des fins.
Ou un livre dont vous êtes le héros avec plusieurs
fins possibles. Ouais, ça pourrait être ça, oui. Non, mais c'est qu'en fait, dans une première version, il me semble que, tu sais, Fitzpatrick, c'était autre chose. Tuer Ezekiel Mathieu à la fin, puis bon, il y avait toutes sortes de versions. Dans une autre version, c'était les bons.
OK.
Les mecs, qui. C'est qu'à un moment donné, à chaque fois, j'étais insatisfait, ça marchait pas. Puis je pense que la vraie raison, c'est que c'est pas un combat de lutte.
Mm.
Tu sais, c'est qu'il y a pas de... Je trouvais qu'une finale comme ça, ça ressemblait trop à la conclusion d'un combat de lutte. Tu sais, il y a quelqu'un qui gagne, un autre... Puis je trouve qu'on les a tellement accompagnés dans une espèce de spirale vers le pire que décider un peu que là, ça va se régler comme ça, puis tout ça, je trouvais que ça contrecarrait justement ce que j'avais fait. T'en parles de la montée, puis ça déchire en quelque sorte, ça va de plus en plus mal, puis aussi le fait qu'il n'y a plus personne qui est net à la fin. Si on se touche avec les motifs de tout le monde, deviennent un peu flou, puis tout le monde est un peu emmêlé, puis fait que j'ai préféré arriver avec une finale comme ça, qui laissait un peu les fils flotter. Chacun pouvait s'imaginer, tu sais, qu'est-ce que Fitzpatrick va-tu se faire arrêter, tu sais, à la frontière, parce qu'il est quand même... peut-être un peu magané,
oui.
Fitzpatrick, puis il y a une grosse nuit, au bout du compte. Puis en même temps, qu'est-ce qui va arriver avec Stevenson? Mm. On peut dire, ils vont peut-être être dénoncés, ils vont peut-être s'entretuer aussi, parce qu'on se rend compte que les deux, ils travaillent un contre l'autre, presque. Fait que tu sais, tout ça est un peu compliqué, puis j'aimais ça que ça reste comme ça, dans une espèce de doute, dans une espèce de flottement. Je trouvais que ça rendait plus justice à ce que j'avais essayé de faire en bout de ligne.
Je reviendrai plus tard avec les points de vue, mais il y a entre autres cette histoire de la pègre agricole. La seule chose que l'on sait, c'est ce que les personnages ont réussi à découvrir à ce moment-ci de leur enquête. On n'en sait pas plus. Que ça se termine, à la limite, je trouve que c'est très roman noir, le fait que les bons ne sont pas récompensés, les méchants ne sont pas punis. C'est pour ça que c'est un motif qui est assez classique. Mais que l'enquête se termine abruptement comme ça, et qu'il n'y a rien qui nous éclaire, parce que tu nous as présenté des personnages au cours de ton roman, des victimes du père de Tommy Madsen, et c'est du moment même où la porte se referme, on n'en sait absolument plus rien de ces personnages-là, parce que ben l'enquête se termine avec les personnages. Y avait-tu une fin qui nous expliquait ces choses-là, ou t'as vraiment fait le choix délibéré de fermer la porte, mais surtout au complet? Pas juste sur la finale, mais vraiment sur les informations que t'as disséminées, sans nous en dire davantage.
J'ai volontairement décidé de les laisser flotter comme ça. J'ai ma petite idée, je la garderai peut-être pour une autre fois. On sait jamais. Peut-être qu'il y aura un jour, une suite. Là. Faut jamais dire jamais. Mais c'était un choix délibéré. Puis tu sais, d'ailleurs, le personnage, je pense, le personnage le plus représentatif du roman à ce chapitre, c'est Bolander.
C'est vrai. Personnage qui est assez glacial, disons-le. Est-ce que tu peux nous en parler de ce personnage-là qui m'apparaît, je dirais, il apparaît pas au début de ton roman, mais du moment même où il apparaît dans ton roman, il joue un rôle assez essentiel. J'aimerais que tu nous t'entendre un peu là-dessus.
Ouais. Ben en fait, il est là dans le prologue.
Ah ben oui.
Il est là avec, c'est ça qui.
Tout à fait.
Puis moi-même, j'ai pas remarqué sur le coup. pour vrai, j'ai pas remarqué sur le coup. Ça m'est apparu plus tard, puis quand tout ça a été bouclé, mais le roman commence avec Jimmy Bilodeau qui va faire une job, va achever un petit junkie. Il est accompagné de Bolander, puis on sent que Bolander le dérange. Il en a un peu peur, il prend de haut, mais en même temps, on sent vraiment que Bolander est beaucoup plus habile, beaucoup plus rusé, qu'on est à un autre niveau.
Est-ce que tu peux nous expliquer, juste nous mettre en contexte, qui est Bolander, pour ceux qui n'ont pas lu le roman, quel est cet étrange personnage?
Bolander est une espèce de dandy, très chic, qui est à la solde, en fait, qui travaille avec les gens, avec cette petite pègre agricole-là. C'est un peu leur associé, mais on comprendra jamais vraiment d'où il est venu.
Comment il est arrivé là?
On finit par comprendre qu'il est un peu à contrat, puis que c'est l'homme de main, puis on va comprendre aussi que de plus en plus, Bolander va tasser tous les hommes de main de Stevenson et d'Ezekiel Madsen, va prendre leur place parce qu'il est plus rusé, parce qu'il est plus subtil, parce que les autres, c'est d'anciens lutteurs un peu rudes, un peu bruyants, un peu grand-gueule aussi. Alors que Bolander, comme un chat, apparaît, disparaît. Puis, ben, ce personnage-là, en fait, je trouve que c'est un peu lui qui contrôle tout, sans jamais être très présent. C'est lui qui va foutre la pagaille entre les gars du gymnase, parce qu'à un moment donné, ils se parlent de Bolander vers la fin, puis on se rend compte qu'ils savent, tu sais, les gars savent plus, lui dit telle chose sur Bolander, l'autre dit telle chose, puis on sait plus comment le prendre. C'est aussi lui qui va séduire Hugo de Turcotte, entre guillemets. Puis ça, c'est probablement le point tournant du roman.
Qui l'amène à ouvrir la porte.
Oui, puis même avant, tu sais, quand t'sais, Fitzpatrick, tu le disais, Fitzpatrick veut que ça arrête, là. Il voit que Turcotte déterre des choses assez compromettantes, assez potentiellement explosives, puis il essaie de mettre le couvercle. Puis à un moment donné, ben, Turcotte est presque en train de se reposer chez lui, là, quand il reçoit un appel d'un certain Bolander qui veut lui parler, puis il va aller là, puis tout va recommencer. Parce que le Bolander a de l'information pour lui, puis tout ça, puis il va être entraîné, puis à partir de là, ça va faire boule de neige. Là. Puis, ben, Bolander, c'est avec lui que ça s'achève aussi. Il vient d'avoir...
La fin est aussi insaisissable que le personnage, en fait.
Ouais, en fait, c'est qu'il va tuer à la fin l'homme qui aidait au début. C'est l'homme qui accompagnait. La dernière phrase, c'est « Je vais te montrer comment on tue un homme. » Puis, il disparaît dans la nuit, puis, tu sais, ça se termine là-dessus. Puis, même pour moi, c'est un personnage un peu insaisissable. Tu sais que c'est une force agissante constamment. Puis, tu sais, quand on a fini le roman, tout ça, travailler sur le roman, moi, puis Eric, on se dit, qui est Bolander? La meilleure réponse, c'est que c'est un peu le diable.
Okay.
Dans ce roman-là, Bolander, c'est le diable. C'est lui qui arrive et qui va comme attirer tout le monde. On sait pas, tout tourne autour de lui. Alors qu'on pense jamais que c'est lui le pivot. T'sais, c'est pas lui le grand patron de la pègre agricole. C'est pas lui qui mène l'enquête, mais c'est comme celui qui tire les ficelles. Fait qu'il est un peu, il est un peu à l'image, en fait, de la fin du roman.
Et c'est un des personnages, ça me fait penser à ça, je réfléchis à haute voix, mais c'est un des personnages qui est le moins décrit, sauf pour ses vêtements.
C'est vrai.
Quand on a discuté de ce personnage-là, je me rendais compte que pour tous les autres, je suis capable de me faire une image mentale, sauf de lui. Ses vêtements sont décrits à profusion, ses vêtements de dandy, ce qui est un motif très typique du diable au 16e siècle. Ce qui m'amène dans un autre registre, pour lâcher le diable, ce qui m'amène au titre de ton roman, en fait, qui m'a beaucoup intriguée, L'homme qui a vu l'ours. Au premier abord, en fait, j'avoue que mon premier abord a été de me dire que l'ours, ben, c'est Tommy, c'est le lutteur, qui est un personnage un peu sauvage, reclus dans les montagnes, qui se livre absolument pas facilement en plus, même s'il a accepté qu'on fasse une autobiographie, il veut presque rien dire de lui, et ben, l'homme, c'est Fitzpatrick, c'est le journaliste, qui le rencontre à plusieurs reprises et tant bien que mal, si on veut, de le faire parler, sans que ça fonctionne toujours très bien, qu'il doit vraiment se faufiler entre ses silences et ses faux semblants. Mais bien sûr, le titre va nous rappeler l'expression « L'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours », qui évoque en fait une espèce de déformation grandissante d'un témoignage qui est raconté par un, souvent des témoins indirects qui vont raconter et grossir la même histoire. Et dans tout ça, il ressortait, en fait, me semble-t-il, l'idée de « qui voit ». La fragilité du regard, la fragilité des vérités, en fait, les différentes vérités que la personne qui regarde peut porter. Je ne sais pas ce que tu penses de mon interprétation, mais est-ce que tu peux nous éclairer sur ton titre, mais surtout ton rapport au point de vue qui m'est apparu assez singulier dans ton roman et dans ton écriture? Comment tout ça s'inscrit dans ton œuvre?
Ben, il y a évidemment, c'est sûr qu'au début, oui, l'homme qui a vu l'ours, c'est Fitzpatrick qui va à la rencontre de Tommy Mathieu. Même au début, je pense qu'il a presque décrit comme un ours. C'est bon. Puis après ça, ben, bien sûr, il y a l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours. Puis en fait, c'est que le roman devient une espèce de jeu de téléphone arabe infini. C'est des déformations. Ce que l'un a attendu, ce que l'un interprète. Ce que Turcotte voudrait bien entendre de ce que l'autre lui dit. On a de la misère à déchirer. Puis on est berné par l'autre, les gens se bernent entre eux aussi, fait que ça fait un jeu de c'est un jeu de point de vue, ça devient presque un kaléidoscope à un moment donné. C'est pour ça qu'il y avait certaines scènes aussi qui étaient pas faciles à mener, entre autres une scène comme la scène du gymnase vers la fin, où là, les trois hommes de main d'Ezekiel Mathieu sont en train de s'engueuler, c'est que là, chacun donne sa version des faits, part sur la version des faits de l'autre et ça devient c'est une déformation permanente. Puis ça, c'était voulu aussi, c'est juste au-delà de l'histoire, à titre, dans mon cheminement d'écrivain, si je peux dire. Mon premier roman, La Ballade de Nicola Jones, c'était un roman très intérieur. C'était l'histoire de Nicola Jones qui... En fait, dans Nicola Jones, il se passait pas grand-chose. C'était un type qui réfléchissait, qui méditait, qui se lançait dans des grandes réflexions. Il pouvait parler de Pelle Lindbergh, le gardien de but. Il pouvait partir sur John Cash. C'était très poétique comme écriture. C'était presque solipsiste. C'était voulu comme ça aussi. Sauf que c'était toujours son point de vue qui n'était jamais vraiment défié, sauf à partir d'un moment dans le récit où raconte une personne. Ça jouerait un rôle transformateur. Dans Les Singes de Gandhi, le deuxième, ben, on sortait un peu, sauf que c'est deux personnes qui s'en vont en Inde, puis c'est le choc culturel, c'est le choc référentiel, le vertige, tout ça, mais ça reste quand même encore le choc de deux personnes, de deux touristes, de deux touristes. Tandis que là, j'ai vraiment voulu jouer avec cette multiplicité de points de vue-là, faire un peu exploser la narration, la pousser plus loin. Fait que ça, c'est un choix conscient. Mais oui, je pense que c'est ça, l'homme qui a vu l'ours, il y a vraiment cette idée-là de la vérité qui se dérobe constamment, puis ben, comme on l'a dit, qui va finalement se dérober jusqu'à la fin.
Mais même dans le travail que fait Fitzpatrick, qui est l'autobiographie, il est amené à interviewé plusieurs personnes qui ont côtoyé Tommy. Ce que dit Tommy de lui-même n'a rien à voir avec ce que dit son ex-femme, n'a rien à voir avec ce qu'en dit son père. Ça, il en dit pas grand-chose, mais on voit que...
Son gérant aussi.
Son gérant, c'est trois choses complètement différentes. Puis on le saura jamais, mais on sait pas comment le journaliste va réussir à mettre tous ces points de vue-là ensemble. En fait, c'est un autre éclatement des points de vue parce que c'est un personnage qu'on connaît jamais non plus. Son histoire ne sera jamais écrite. En fait, le lecteur n'en saura rien de quelle est cette histoire-là. Mais ça fait... je pense qu'il y a un des passages où on a peut-être un narrateur omniscient qui raconte le vol de la ceinture et tout ça. Mais outre ça, on a uniquement des personnages qui racontent ce qu'ils ont vu, ce qu'une autre personne a dit. Ce qui fait qu'à la fin, ça devient très difficile de savoir qui a fait quoi, qui a vu quoi, qui est assez à l'image de l'enquête des deux personnages. Est-ce que cet éclatement des points de vue-là a été, compliqué à mettre en scène? Ou ça s'est révélé un peu par soi-même, par la nature de l'histoire?
Ça s'est fait un peu seul. En fait, la clé, ça a été le personnage du coup Turcotte, je pense. Parce qu'il a pris plus d'importance. Au début, dans la première mouture du roman, il était moins important. C'est plus un personnage satellite, entre guillemets. Mais quand j'ai vraiment décidé que ça prenait cette force-là pour en arriver à ça. Déjà, le choc des deux, la confrontation, le jeu du chat et de la souris aussi entre Turcotte et Fitzpatrick permettait ça. C'est déjà, il y a ce que Turcotte... Tu sais, il y a tout un jeu entre ce que Turcotte constamment, puis c'est ça aussi qui va faire déraper les choses, ce que Turcotte va dire à Fitzpatrick, ce qu'il va faire, ce qu'il sait,
ce qu'il dit pas,
parce que des fois il va même garder l'information pour lui-même, partir avec ça, puis s'enfoncer encore un peu plus creux. Tu sais, il va finir par se confier vraiment à Fitzpatrick quand il va être trop tard, en quelque sorte.
J'arrive sur un sujet dont on a un peu parlé, en fait, mais moi qui m'a beaucoup impressionnée dans ton roman, c'est l'utilisation de la langue. T'as une manière très particulière d'utiliser la langue. En fait, ton histoire se passe entre le Québec et les États-Unis. En tant que lecteur, on sait, évidemment, instinctivement, que dans les passages aux États-Unis, les personnages parlent anglais, forcément. Or, tout se déroule en français. Dans ton roman. Tu as réussi à rendre l'anglais en français et même à rendre les différents niveaux de langue anglaise en français. Et tu as même réussi, en tout cas moi, ce que j'ai trouvé un tour de force, à rendre en français un dialogue en anglais où il y a un des personnages qui corrige l'autre sur une faute linguistique. Et il faut relire le passage une fois, il suffit de connaître un peu la langue anglaise pour voir dans la manière dont il le corrige. En fait, l'autre va le traiter de gros gorille. Et il va dire, on ne dit pas gorilla, G-O-R-I-Y-A, mais gorilla, avec deux L. Pas besoin que ce soit écrit pour tout de suite saisir, voir la phrase, entendre la phrase en anglais dans ton texte qui est en français. Est-ce que tu peux me parler de ce rapport à la langue qui est, très honnêtement, et pour tous les adeptes du roman noir, aux antipodes des traductions françaises qu'on a l'habitude de lire et auxquelles on est habitué, ou même aux antipodes de, tout simplement, ce qui se passe en anglais, on le dit en anglais et on le traduit. D'où vient ce choix-là?
Ben, en fait, comment je pourrais dire? En fait, c'est en premier, c'est venu un peu... évidemment, c'est un pack, puis bon... Un coup on est dedans, on écrit, le jeu c'est de donner, de trouver les bonnes touches. La question de Gorilla, entre autres, puis il y en a quelques autres là, un peu là, qui émaillent le roman, c'est pour montrer aussi la maladresse des personnages. C'est un peu un avertissement, pas un avertissement, mais un signe que Turcotte est là, va baver des gens dans le Vermont, c'est un type qui travaille à Québec, puis forcément, il peut parler bien. Enfin, il peut parler bien anglais, mais c'est impossible qu'il se trahisse pas, jamais. Puis ces touches-là, je les ai rajoutées justement pour marquer ça, pour marquer le jeu. Oui, on a quand même deux Franco qui évoluent aux États-Unis, puis dans le cas de Fitzpatrick, ça se posait quand même un petit peu moins parce qu'il y a un père anglophone, mm-hmm. tout ça. Sauf que quand même, tu sais, j'ai joué là-dessus par moment. Il y a même aussi Madison, à un moment donné, qui sacre en français oui. parce qu'il a, il a marié une Québécoise, Madison. Fait que, il y a tout ce jeu-là.
Mais ce dialogue où il sacre en français, il est tout écrit en français.
Ouais.
Mais on le sait qu'il sacre en français, mais qu'il continue de parler en anglais. Comment on fait pour savoir ça? Il y a un choix qui a été fait au niveau de la langue et qui fonctionne. En fait, je le dis parce que ça fonctionne vraiment très bien, puis parce que tout lecteur, j'ai pas dit n'importe qui, mais en fait, je pense que n'importe quelle expérience de lecteur qui connaît un tant soit peu l'anglais, pas obligé d'avoir lu 1000 romans noirs pour embarquer là-dedans, on comprend tout de suite. Ceci n'est pas fortuit.
Non, je sais, mais entre autres, tu sais, tu me disais tantôt avant, quand, dans notre pré-entraînement, que j'aurais très bien pu mettre des phrases en anglais.
T'aurais pu émailler ton texte de phrases en anglais en italique.
Puis, oui, puis au début, il y en avait, comme je te le disais tantôt, il y en avait plus. Sauf que pour moi, je trouvais que ça faisait plaquer. J'écris quand même un roman, je suis quand même un auteur québécois qui écrit un roman, oui, ça se passe aux États-Unis. Fait qu'à partir de là, il y a la question des niveaux de langue. T'sais, t'sais, oui, ça se passe aux États-Unis, mais ça reste des gens qui ont une conversation. Puis tu sais, Mathieu, à un moment donné, va dire à Fitzpatrick, t'écris-tu un livre? Mais tu sais, on imagine, il y a des niveaux de langue en anglais, tu sais. Il dirait pas « Are you writing a book? » Il dirait d'un air un peu désinvolte, tu sais, « Writing a book? » Ouais. Fait que c'est ça, son écrit dessus, tu sais, il est là-dedans, c'est comme... Je sais pas comment ça leur parle, mais c'est comme ça que les choix se font un peu, tu sais, en choisissant le moment, c'est contextuel. Puis il y a plusieurs moments aussi que je trouve que... Ça a pas de sens ce que je vais dire, mais... On est quand même dans un univers nord-américain.
Mm-hmm.
Fait qu'il y a plusieurs parentés qui se font un peu naturellement. Tu sais, tu parlais des traductions françaises, tu sais, mais c'est pas un problème.
Tout le monde connaît les fameuses boîtes de bière qui traduisent les cans of beers dans Rivage Noir.
Ouais, mais tu sais, puis même ailleurs, tu sais, ça se voit partout. Tu sais, il y a évidemment les horribles cas de Mordecai et Claire. Tu sais, moi, le jour où j'avais essayé de le lire, puis j'avais vu. On parlait de Henri Richard et son bâton de hockey, là, qui était surnommé le Pocket Rocket. Ben, c'était la fusée de poche sans peur de son gourette. Non, c'est fait que ça se passe pas, mais c'est aussi, je veux dire, c'est qu'il y a plusieurs parentés, juste dans notre façon de nous exprimer.
Mm-hmm.
Je prends juste un exemple, tu sais. Mathieu, à un moment donné, pogne les nerfs, frappe dans un miroir, se coupe.
Mm-hmm.
Puis là, il part, il fait juste dire « Ah, oh, fuck, je pisse le sang.
Mm-hmm. »
Même moi, en tant que Québécois, si je me coupe, je sais, en tout cas, moi, je vais pas dire « Ah merde, je saigne ». Je vais dire « Ah, fuck, je pisse le sang ». Il y a comme des parentés comme ça qui sont faciles à aller chercher, tu sais.
Mm-hmm.
Des choses qui font qu'on est aussi, on est aux États-Unis, mais on est tous dans un univers nord-américain. Il y a ce jeu-là aussi, je pense, qui opère. Pour le reste, comme je dis, c'est contextuel. Puis, tu sais, il y a, entre autres, tu sais, Mathieu ne parlera pas à son père comme elle va parler à un autre personnage. Mm-hmm. Il y a tout ce jeu-là. Puis même les personnages aussi ont plus qu'une langue, en quelque sorte.
Mm-hmm.
Le plus bel exemple, je trouve, c'est Guillaume Fitzpatrick. Tu sais, au début du roman, Guillaume Fitzpatrick, c'est le beau journaliste un peu clean qui écrit pour un grand magazine, qui est engagé par Random House. Puis Turcotte, c'est presque le petit passé, le petit névrosé qui travaille à Québec, puis qui est un peu raté. Sauf que Fitzpatrick va dégringoler, là. Tu sais, à la fin, Fitzpatrick, il sacre beaucoup, il est névrosé, puis ça va avec ce qu'il est en train de vivre, là. Tu sais, quand il fait des clés de coke dans un stationnement de centre d'achat, ben, c'est plus le temps d'avoir ses belles phrases puis ses grandes réflexions sur Guy Talese. Tu sais, c'est autre chose. Fait que, tu sais, la langue, elle devient contextuelle aussi, elle bouge. Pour le reste, c'est ça, tu sais, le reste, ben, c'est des choix qui sont opérés. C'est sûr qu'il y avait beaucoup de fine-tuning dans les dialogues pour aller chercher ça, forcément. C'est pas facile, il y a aussi le danger d'en faire trop. T'sais, je parlais du gorilla, c'est l'exemple que tu donnes, bon, tu peux pas en faire trop non plus, parce que là, ça va devenir plaqué, ce que je voulais éviter. Mais l'idée de mettre des blocs de texte, des phrases, tout ça, qui seraient entièrement en anglais, je l'ai vite écarté. Je trouvais que c'était trop poussé, c'était trop mettre en évidence le fait que voilà, j'écris un roman qui se passe aux États-Unis.
Est-ce que ton métier de traducteur est engagé dans cette pratique d'écriture, là?
J'aimerais beaucoup ça traduire des textes aussi le fun que des romans. C'est pas ce que je fais. Mais sinon, mais c'est une bonne question.
Tout le moins dans ce choix-là.
Oui. Ben, c'est toujours la question de l'intention, du contexte. On parle à qui, on parle d'où. C'est des questions que je me pose tout le temps dans mon métier, d'une autre façon, évidemment. C'est un peu dur de répondre dans le sens que là, je l'ai pas traduit le roman. J'imagine qu'un Daniel Grenier, par exemple, qui en traduit des romans, il est confronté à des choix comme ça qui ne se vivent pas de la même façon. T'sais, moi, je suis dans le geste de l'écriture. Mais c'est sûr que c'est cette question-là de l'intention, des niveaux de langue, des registres, oui. Mais ça reste des choses quand même foncièrement différentes.
Ton roman est rempli de noms propres. Et de référence. En fait, tu vas évoquer bien sûr les grands noms de la lutte, Stone Cold, The Rock, Hulk Hogan, les British Bulldogs, Dino Bravo, mais tu évoques aussi les grands noms du sport, en général, de la musique, Metallica, AC/DC, Kanye West et compagnie, de la culture populaire américaine, de la littérature américaine. Quel cadre as-tu voulu construire avec toutes ces références-là?
Bonne question. Il y a une partie là-dedans qui est consciente, une autre qui se fait en cours d'écriture. Déjà, dans mon premier roman, des figures, des référents devenaient presque des personnages. Je parlais tantôt, il y avait des divagations sur le joueur de hockey Rick Nash, sur la figure de Johnny Cash, sur Clint Eastwood. J'aime beaucoup ça, cette intrusion-là de la culture populaire dans l'écriture. Mm-hmm. On vient d'un monde quand même. J'ai la misère. Je pourrais pas. Il y aurait mon personnage dans Nicola Jones, par exemple, aurait pas pu fantasmer sur un chanteur country générique. T'sais. Fait qu'il y a cette idée-là de s'inscrire dans un horizon, dans l'univers dans lequel on vit. Ça, c'est un choix conscient. Le reste, dans l'ours. C'est très contextuel aussi, ça vient avec le personnage, tu sais. Fitzpatrick, c'est sûr, c'est un grand journaliste sportif, il a ses références, puis on plonge un peu dans son univers. Quand il écoute un match aussi avec il y a un match de baseball qui joue dans la scène, il rencontre le gérant de Mattson, puis il y a toujours l'action sur trois écrans qui coupe leur conversation, mais c'est ça, c'est un choix voulu, Le journaliste sportif, oui, mais en même temps, je trouve que ça l'ancre l'action dans quelque chose de véritable, de concret. Quand on a un journaliste sportif, il y a ça qui se déroule, il est tout en train de commenter un peu, il y a tout ça qui s'entremêle. Il y a Mattson aussi en sort des références, mais ça va avec le personnage, c'est que Mattson, des fois, il se la pète un peu. Quand il parle, il aime ça montrer ses cadres avec où on le voit avec un tel... Puis, entre autres, je pensais à un passage où il dit à Fitzpatrick, il y a comme un tournoi de golf, là, il y a une image, on le voit avec Bill Clinton, puis il dit, ce soir-là, j'ai presque couché avec Hillary, c'est à cause de ses gardes du corps. Ça aurait peut-être changé le cours de l'histoire, on ne saura pas. Mais, fait qu'il y a ça, dans ce jeu des référents-là, mais c'était inévitable un peu, je pense, dans cet univers-là. C'est pareil comme à la fin, quand on a toute la cérémonie d'intronisation, là, il y a le choix, comment tu la décris. Puis là, je me suis dit à un moment donné, oui, c'est sûr qu'il y a des bands qui jouent là. Il va y avoir de la musique. Là, j'invente une espèce de faux groupe de rock où, maintenant, on va mettre Metallica. Ça va être encore plus campé, ça va être encore plus concret. Sinon, un point qui est intéressant, je pense que le plus intéressant au niveau des référents dans ce roman-là, c'est le jeu entre les vrais lutteurs et les faux lutteurs.
Oui. Je fais juste une précision, parce que moi, ça m'avait beaucoup intéressé. Ça aurait été très facile d'inventer un monde, disons, complètement factice, mais tu crées la WIA, qui serait une autre association de lutte professionnelle aux côtés de la WWE, l'ancienne WWF, qui existe déjà. Et tu mêles ceux de la WIA fictive avec les vrais, ils ont des discussions, ils se sont croisés, D'où vient justement ce choix-là de mêler constamment le vrai et le faux?
Premièrement, pour faire damner les correctrices qui m'écrivaient en me demandant un tel existe-tu, je le trouve pas. Sinon, ben, c'est que je trouvais que, encore une fois, ça l'ancrait vraiment. J'aurais pu créer des personnages entièrement imaginaires, mais c'est qu'à un moment donné, ces gars-là ont existé dans le temps. Ça se déroule là, dans telle période de la carrière de Madison, mais forcément, il y avait des lutteurs qui évoluaient avec lui. Puis à partir de là, tu peux t'amuser. Tu sais, je fais revenir un vrai lutteur contre qui Madison va lutter, le vieux Razor Ramon qui est en fin de carrière. J'invente aussi, tu sais, on voit des photos à un moment donné dans l'espèce de petit musée personnel de Madison. Puis là, j'y invente un combat en équipe contre le Undertaker, qui est un des plus grands lutteurs de notre époque. Donc, tout ce jeu-là, je trouvais que ça, ben, c'était jouer entre la fiction et le réel. Je trouvais que ça faisait des effets intéressants. C'est aussi, pour les amateurs de lutte, c'est comme un peu un bonbon en même temps.
C'est à la fois un bonbon et un clin d'œil.
Ouais,
parce qu'on sait tout de suite ceux qui sont vrais et faux, mais je me disais, ceux qui connaissent zéro la lutte n'ont aucune espèce d'idée qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. Il y a un peu un rapport aux initiés, en fait, là-dedans.
Ouais,
pour la
ouais.
musique, non, mais
non.
Pour cet univers-là, tu le travailles beaucoup.
Ouais, c'était un peu volontaire, c'était voulu aussi. C'est le petit côté, ouais, c'est le petit côté pour initier, peut-être. Je trouve que ça l'ajoute une autre dimension aussi. Tu sais, moi, j'ai parlé à des gens qui étaient des fans de lutte, puis ils m'ont beaucoup parlé de ça aussi, ce jeu-là, ça leur a plu. Puis je pense que ça l'ancre mieux le récit aussi. Ça lui donne pas une crédibilité, mais ça lui donne une autre dimension qu'il n'aurait pas eu, tu sais, si j'avais juste inventé des personnages.
Complètement fictifs.
Ouais, complètement fictif.
Je reviens très très rapidement justement sur le cadre que tu fais. J'ai eu cette impression que tes références nous campent en fait quelque chose de beaucoup plus américain que québécois. Alors que le roman, en fait, est marqué par les allers-retours constants, le Québec puis les États-Unis, presque tout le cadre des noms que tu cites est américain. La littérature, la musique, la culture populaire, il y a très très peu de Québécois, outre les personnages, outre la langue, le contexte, et donc c'est ce cadre-là, puis c'est pour ça que je te posais la question, est-ce que c'est conscient? Est-ce que c'est un choix que tu as voulu faire en nommant, si on veut, les références que les personnages auraient tout à fait pu citer, je sais pas moi, des téléréalités québécoises ou des quelque chose qui est très que tout le monde connaît, mais tu n'en fais absolument pas mention.
C'est vrai qu'il y en a assez peu. Sinon, il peut y avoir des passages, je sais pas, turcotte dans un motel, lit le journal de Québec, tout ça, bon, on va y toucher les nouvelles. Puis, pour le reste, je pense que ça a beaucoup à voir. C'était pas un choix conscient. Ça a beaucoup à voir avec le fait que Fitzpatrick, qui est le personnage principal, gravite presque essentiellement dans un univers sportif américain. Mm-hmm. Il gravite dans ce milieu-là. Je pense que c'est comme ça que c'est apparu. C'est pour ça que ça s'est développé comme ça.
OK. Je termine l'entrevue là-dessus. En fait, j'ai quelques autres questions que je me garderai éventuellement en réserve, mais j'ouvre la porte aux questions de la salle, ceux qui ont envie de poursuivre la discussion autour de l'homme qui a vu l'ours. C'est le moment de vos questions. Je peux y aller, une question. En fait, je me permets de te poser une question que tu voulais pas que je te pose. Et je vais la poser quand même. On avait parlé un peu justement de comment tu te situais par rapport à l'étiquette roman noir ou au code roman noir. La première fois où on avait discuté, tu m'avais dit « J'aime pas beaucoup cette étiquette-là, en fait. Je me sens pas particulièrement à l'aise dans le fait d'insister sur le genre du roman noir. » Comment tu te situes dans ce genre-là, dans ces codes-là?
Ouais, ben en fait...
Qu'est-ce que t'aimais pas dans cette question-là? Pourtant!
Non, mais en fait, c'est que je pense que comme je te l'avais écrit, c'est un peu une incompréhension, pas une incompréhension, mais c'est que souvent, je trouve que le roman, quand on parle de roman noir, c'est souvent facilement rabattu sur le policier. C'est le policier. Bon, quand on a continué à discuter, le roman noir, je l'entends surtout comme une ambiance, un climat, tu sais, tout ça. J'ai pas de misère. Exactement. J'avais pas de misère non plus tant que ça avec l'étiquette, là. Mais j'ai pas, tu sais, oui, le roman noir entendu au sens plus contemporain du terme. J'ai pas de difficulté à vivre avec ça. Je pense que c'est ce que j'ai fait.
Est-ce que c'est ce que tu voulais faire?
Oui, c'est ce que je voulais faire. Ouais, oui, c'est ce que je voulais faire. C'était un choix conscient. Mais, ouais, sinon, c'est ça. C'était juste ça, la mettre en tente. C'est là-dessus qu'on s'était pas compris, ouais, mais non, c'est, tout simplement.
D'autres questions?
Entretien, on a mis le coup de lire. Et la question que a posée Hélène sur la question de la langue, ça me rappelle dans les romans de Michel Tremblay, une chose qui m'énerve dans les romans, les sites homosexuels, justement, à un moment donné, ça se passe à Key West. Et là, il veut faire parler justement les Américains, qui un narrateur rencontre au même niveau de langue, donc c'est en français, bien sûr, mais on devine que le dialogue a eu lieu en anglais. Mm. Et donc, il parle probablement le même vernaculaire américain qui doit ressembler un peu au vernaculaire québécois. Sauf qu'à un moment donné, un des personnages demande à l'autre de lui passer, il prend sa douche, de lui passer le pain de savon. Voyons, il a demandé qu'il écrit le pain de savon. La barre de savon.
Ouais, ouais.
Ça serait même bar of soap. Québécois, on dirait barre de savon. Pain de savon, c'est très français, mais ça, c'est pour Québec. Alors là, je me suis demandé, est-ce que c'est Michel Tremblay vraiment qui a fait cette gaffe-là? De choisir un niveau de langue qui ne correspond pas. Et là, on le sent vraiment comme quelque chose qui, au niveau du pacte de lecture, ça ne marche pas. Ou est-ce que c'est comme c'est paru chez le MEAC Actes Sud, c'est l'éditeur français qui est intervenu? Ça, je ne sais pas. Mais il me semble que là, c'est un bon exemple là, de quelqu'un, pourtant quelqu'un qui a du métier, hein, qui
connaît
bien la langue, qui joue avec les registres de langue, mais qui là fait une erreur. Alors que si c'est lui qui le décrit, mon avis, c'est une erreur, ça ne marche plus. On décroche comme lecteur. Ou au contraire, de trouver vraiment une façon de, comme tu disais, faire entendre en français l'anglais, avec ses particularités. Et il semblerait, d'après ce que vous avez dit, que c'est une des choses que tu as bien réussi à faire dans le roman.
Ben oui, il semble que oui, en tout cas. Je suis content de l'entendre. Ben en fait, le pain, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Chaque... je parle de ça, comme dire, on écrit le roman, ça va bien, tout ça, mais chaque réplique, on la revoit finement pour, tu sais, éviter ces choses-là, tu sais, bon, je sais pas, l'exemple que vous donnez, le pain de savon, tu sais, non, c'est sûr, c'est, ben, puis, tu sais, même barre de savon, à la limite, ça fait bizarre, c'est le savon tout court. C'est ça, c'est toujours aller chercher le naturel, premièrement, peu importe où on se situe, là. Puis le reste, ben, c'est des touches. C'est que tu peux pas, comme je disais, tu peux pas surjouer ces pactes-là non plus. Tu peux pas, parce que là, ça paraît. T'essaies de dire au lecteur, oui, je sais que c'est pas, tu sais.
Parce qu'on se trompe pas, en fait, dans ton roman, même si c'est très marqué par les allers-retours en voiture. La seule chose où on sait que les personnages se promènent beaucoup, du Québec jusqu'aux États-Unis. Mais il y a pas une fois où on se dit... Où est-ce qu'on est rendu? On est chez qui? Est-ce qu'on est au Québec? Il y a ça aussi, c'est que tu réussis en français à ne pas nous perdre dans ta langue. Et j'ai essayé de faire le relevé un peu avant dans ton roman pour voir. Est-ce que c'est très, très marqué? Ben, nous voici clairement débarqués à la maison. Mais en fait, non, à part les allers-retours en voiture, on voyage beaucoup dans ton roman, c'est amené de manière assez subtile et on suit tout le long. Tu réussis à ne pas nous perdre, même s'il n'y a rien qui est marqué par la langue anglaise. Et c'est ce que je trouve être une grande réussite, en fait, ton roman.
Je pense que c'est peut-être dû aussi au fait que dans chaque lieu ou chaque rencontre, il y a comme des ambiances qui sont peut-être assez... On a beaucoup travaillé sur la façon de camper ces ambiances-là. Mm-hmm. Tu sais, quand on arrive chez Mattson, on sait qu'on est chez Mattson. Tu sais, il y a quelque chose, ça... Mattson lui-même, la maison, l'ambiance qui s'installe rapidement. Puis là, la langue se déploie naturellement à travers ça. On sait dans quel univers on est. Quand on est au gymnase, c'est autre chose. C'est une façon de rendre qui se trouve... C'est peut-être... Là, mais des façons de rendre les choses qui déjà te préparent au genre de dialogue. T'es déjà dans cet univers-là, dans ce micro-climat-là, dans le roman. Ouais, c'est ça. C'est...
D'autres questions? Je m'en permets une dernière. et je clorerai là-dessus. Dans ton roman, il y a une chose que j'ai beaucoup appréciée, qui est à la fois très troublante, mais fort appréciable, c'est que la tension et la violence montent à peu près au même rythme qu'un motif. qui est l'abcès de Turcotte. Turcotte commence avec un mal de dents et refuse parce qu'il est névrosé, qu'il a peur des piqûres et du dentiste, et bon, on comprend aussi sa névrose là-dedans, refuse d'aller se faire soigner. Et tout au long du roman, il décrit, comment dire, la dégradation de cet abcès dans toutes ses couleurs, dans toute la douleur que ça lui fait subir, dans tout ce qu'il est obligé de prendre comme médicaments, alcool, pour essayer de ne serait-ce que fonctionner, dans ses tampons d'ouate qui se mettent dans la bouche pour essayer d'absorber le pus au fur et à mesure jusqu'à temps que ça pue aucun espèce de sens. Est-ce que je me suis dit très naïvement que c'était une belle métaphore justement de cette tension-là qui monte, puis aussi de on sait pas où est-ce que ça s'en va avec tout ça, parce qu'il on peut pas continuer très très rapidement avec cet abcès-là, mais j'avais l'impression qu'il allait mourir dans sa chambre d'hôtel avant la fin du roman. Est-ce qu'il y avait un choix avec ce motif-là, ou c'était juste pour nous indiquer que le personnage était particulièrement névrosé?
C'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai qu'on peut y voir une espèce de miroir ou de reflet de ce qui va se passer. C'est aussi pour montrer son espèce d'entêtement. C'est comme presque un défi, on dirait, cet abcès-là, à un moment donné. Là, c'est comme ça dépasse l'entendement. Puis c'est vrai que c'est un peu un miroir de ce qu'il va faire, ce qu'il fait. Ça dépasse l'entendement. T'sais, un type qui part, il va... baver la pègre, finalement. Ouais. Il est très coquille, là, tu sais, sur son abcès, puis tout ça, puis il se promène partout. Puis
il peut à peine s'exprimer. Déjà, il peut presque plus poser de questions vers la fin, mais il le fait quand même, on ne sait trop comment.
Ouais, c'est ça. Puis c'est ça, à un moment donné, j'ai décidé d'arrêter son abcès, il fallait qu'il se fasse opérer. Puis ça avait... Non, mais c'est parce que je pense que je l'ai mené. Je pense que ça se tient bien. C'est une scène, plusieurs personnes m'en ont parlé. Ça finit chez le dentiste, là, dans une scène un peu délirante, là,
oui.
Avec Phil Collins qui joue en arrière-plan. Mais c'est que je l'arrête quand il faut que je l'arrête. Ça ne peut pas continuer parce qu'à un moment donné, ça devient tellement grotesque aussi. Mais c'est voulu, là, il pousse ça au bout. Puis en même temps, ça quête aussi. C'est vrai ce que tu dis, c'est un peu presque une métaphore de la quête qui est vouée presque à l'échec, là.
Sur ce, Patrick Roy, merci beaucoup pour cet entretien.
Ben merci, Hélène.